Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus m'écouter. Je remercie surtout M. Buscemi de me permettre de parler d'un sujet que j'apprécie beaucoup et dont je vais essayer de m'entretenir assez brièvement aujourd'hui. C'est un sujet dense et je vais me tâcher de me limiter à une heure. Voilà. Le titre donc qui m'a été donné est « De la cité de l'homme à la cité de Dieu » par la cité de Marie, et je vais essayer de vous montrer qu'effectivement, cette cité de l'homme, aujourd'hui, est quand même très dégradée. Monsieur Jean-Claude Dupuy vient de nous montrer, au moins à travers l'exemple de la France, mais je crois que pour le Canada, c'est un peu pareil, le déclin de la pratique religieuse. Et je pense qu'on peut dire aussi que l'état de nos pays, quand je dis nos pays, c'est aussi bien la France, le Canada, mais on peut parler de bien d'autres pays. Ce soir, je me contenterai de parler surtout du Canada et de la France, parce que je la connais un peu mieux que le Canada, vous m'excuserez. Eh bien, ce constat que l'on fait, d'abord au plan politique, je ne m'étendrai pas, vous le connaissez comme moi, même si j'ai constaté avec plaisir que la situation du Canada est bien meilleure que celle de la France, mais j'ai senti qu'il y avait quand même de graves menaces, tant sur le plan politique, à cause de la diminution constante de pouvoir des nations, ensuite de l'économie, vous n'avez encore pas atteint, et je ne vous le souhaite pas, le niveau de dette de la France, mais j'ai vu qu'elle était quand même assez importante, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau provincial, hein, ce qui génère une augmentation d'impôts considérable, mais on voit aussi au niveau social, et là vous commencez comme nous à subir un danger considérable que constitue l'arrivée en masse de personnes, de populations venant des pays de l'islam. Enfin, et je parle à des convertis, sur le plan moral, toutes les nouvelles lois qui apparaissent actuellement et pour contre lesquels vous avez le courage de vous défendre, hein, que ce soit le divorce, l'avortement, la PMA, le gender. Voilà. Et sur le plan culturel, j'ai eu également l'impression que vous étiez meilleur. Mais si je prends par exemple le cas de la France, hein, qui était quand même la fille aînée de l'Église et qui sur le plan culturel a été pendant des siècles un peu un phare, quand vous regardez ce qu'elle est devenue il y a 2 ans, voilà le classement de la France au point de vue connaissance scolaire. Parmi les 50 premiers pays européens, elle a l'avant-dernière position, pratiquement, avec uniquement derrière la Belgique et Malte. Vous comprenez que dans ces conditions, on est quand même inquiet sur l'avenir temporel. Mais si on regarde le côté spirituel, et là, je m'en excuse aussi, je vous donnerai des chiffres français, mais j'ai constaté que vous aviez les mêmes tendances au Canada. Si je regarde ce que nous a déjà expliqué M. Dupuy, la pratique religieuse. Voici en France, depuis 1952, le détail jusqu'en 2006. On est passé globalement de 27% à aujourd'hui 4,5% en 2006. Dernièrement, il y a 2 ans, le journal qu'on peut qualifier d'anticatholique La Croix, parce qu'il est distribué dans tous les diocèses de France et dans toutes les écoles catholiques, eh bien, annonce seulement 1,8% de personnes qui vont à la messe tous les dimanches. 1,8% en 2016. Mais pour moi, ce ne sont pas forcément des catholiques. D'abord, un catholique va à la messe tous les dimanches, certes, mais il croit à tous les dogmes de la foi. Et là, si vous faites un petit sondage, par exemple, vous prenez le « Je crois en Dieu », je pense que vous le connaissez tous, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Et là, « Créateur du ciel et de la terre », vous pouvez déjà diviser le chiffre de 1,8% par au moins 2. Nous voilà donc rendus à 0,9%. Mais ça ne suffit pas. Vous avez la loi morale et vous le savez, puisque vous vous battez pour la défendre. Si vous demandez simplement aux jeunes de France qui sont déjà dans ces 0,9%, de respecter la loi morale, ne serait-ce que d'être chaste le jour de leur mariage et de ne pas avoir d'aventure sexuelle, comme on dit pudiquement, pendant le mariage. Eh bien là, vous divisez encore par deux. Et vous arrivez à moins de 0,5% de catholiques en France aujourd'hui. Ce qui donne le chiffre, en gros, de 300 000 catholiques. Ce en quoi un jésuite traditionnel, ce n'est pas un contresens, ça existe en France, il en a encore un ou deux, me disait « Monsieur, vous vous trompez. Si vous allez plus loin sur vraiment tous les, comment dire, critères catholiques, vous n'irez pas au-delà de 50 000 personnes. » Voilà. Et je crois que vous, je ne connais pas les chiffres, mais j'ai bien l'impression que malheureusement, vous en êtes un peu là. Et si je prends sur le plan des prêtres maintenant, parce que s'il n'y a pas de catholiques, c'est aussi, on peut se dire, s'il y a des missionnaires, vous le savez bien, des missionnaires sont capables de redresser la question. Eh bien voilà la courbe des prêtres en France. J'ai cherché assez longtemps celle des prêtres au Canada. Elle est bien cachée et je me demande si ce ne sont pas parce que vos évêques n'ont pas envie de la montrer. Je vais vous montrer celle de la France. La voici. Je vous pose une question. Où est la génération Jean-Paul II ? Aujourd'hui en France, il y a moins de 10 000 prêtres et la moyenne d'âge est de 75 ans. C'est-à-dire qu'il y a moins de 5 000 prêtres à avoir moins de 75 ans en France. Pour avoir un taux aussi bas de catholiques et de prêtres, il faut remonter au temps de Saint-Denis, au premier siècle de la chrétienté, pour avoir un taux aussi bas. Mais la France, à l'époque, ne faisait que quelques millions d'habitants, alors qu'aujourd'hui, elle en fait 66. C'est une véritable catastrophe, comme l'a montré Guillaume Cuchet. Et donc, aussi bien au plan temporel qu'au plan spirituel, on est quand même un peu inquiet. Monsieur Dupuis, hier, essayait de tempérer mon pessimisme. Il avait fortement raison. Mais constatez quand même que les chiffres ne sont pas en faveur d'un optimisme démesuré. Et donc, que faire ? Dieu ne peut pas se contenter d'une telle situation. Il veut sûrement que tous les Français, comme tous les Canadiens, soient de bons catholiques, aient des enfants et pratiquent régulièrement. Comment faire ? Qu'est-ce qu'il veut ? Comment imaginer, par exemple, que cette situation idéale que nous aimerions voir avec une majorité de catholiques dans la population puisse être, je ne dis pas dans une ou deux générations, je n'ai pas envie de finir comme ça, mais je voudrais qu'elle soit là dans 10, 5, même un an. Vous allez me dire, c'est complètement illusoire, Yves Delassus est complètement fou. Il faudrait un véritable miracle. Ah, vous avez dit miracle. Mais alors c'est extraordinaire. Nous avons la solution. Parce qu'un miracle, nous savons comment faire. Il y en a plein l'évangile. Il suffit de savoir. Malheureusement, nous avons oublié comment on fait un miracle. Donc, je vais vous rappeler le mode d'emploi d'un miracle. Il est très simple. Un miracle, il y a 5 phases. Et nous allons en prendre 2. Je vais vous le montrer, il y en a plein dans l'Évangile. Vous pourrez refaire l'exercice avec ceux que je ne citerai pas. Mais prenons d'abord le tout premier de notre Seigneur, celui du miracle de Cana. Eh bien, on constate qu'il y a 5 phases. La première phase, c'est un constat de notre impuissance. Nous nous sommes mis, comme on dit en France, dans la panade. On est responsable et on ne sait plus comment en sortir. Et la première chose à faire, c'est humblement de déclarer « Je me suis mis dans le pétrin ». Qu'est-ce que fait la Sainte Vierge ? Elle commence par dire à son fils « Ils n'ont plus de vin ». Parce qu'eux sont incapables de le reconnaître. Ils sont furieux, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Du coup, la Sainte Vierge prend leur place. Elle dit « Si je ne m'en remets pas, il ne se passera rien ». Notre Seigneur, première chose qu'il répond, il dit à sa mère que son heure n'est pas venue. Et là, il y a un phénomène extraordinaire, un acte de foi comme seul Notre-Dame peut en faire un. Bien que son fils vienne lui dire « ce n'est pas mon heure », et elle le sait, et ouais, sans doute, Elle fait cet acte de foi extraordinaire. Pourquoi ? A-t-elle croisé le regard de son fils ? Je ne sais. Mais elle dit au serviteur, alors que son fils vient en gros lui dire « Je ne ferai rien », elle répond au serviteur « Faites ce qu'il vous dira ». Extraordinaire acte de foi après un constat que, effectivement, la situation est grave. Troisième étape qu'on ne voit pas dans les noces de Cana, puisque Jésus vient de dire que ce n'est pas son heure. S'il fait un miracle, ce sera caché. Il est obligé de respecter ce que son père lui a demandé. Mais il le fait quand même, puisque sa mère lui a demandé. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que son heure n'est pas venue, mais la Sainte Vierge est capable d'avancer l'heure du Christ. Donc, première chose que fait notre Seigneur, il dit « remplissez d'eau ces jarres ». Alors, mettez-vous un instant à la place des serviteurs. Ils sont très gênés, ils se sont trompés, ils n'ont pas calculé assez large pour le vin. Et voilà qu'un hurluberlu qu'ils ne connaissent pas leur demande de remplir 6 ou 12, je ne sais plus, énormes vases qui servaient aux ablutions des Juifs avant les repas pour se laver les pieds et les mains. Je vous laisse imaginer l'état de l'eau qui est dedans. Le Christ leur demande de les remplir sans même les vider avant. Ils se disent, celui-là, il est complètement fou. Mais ils le font quand même. Pourquoi ? Là encore, ont-ils croisé le regard de ce personnage extraordinaire ? Nul ne le sait, l'Évangile est sobre sur les détails. Toujours est-il qu'ils le font. Et à ce moment-là, se produit le miracle, qui n'est pas très visible, puisque l'heure du Christ n'est pas venue. Mais il se produit, il est bien là. Et à ce moment-là, le Christ donne une cinquième étape qui est « puisez et portez-en au maître du repas ». Deuxième miracle, là je vous propose le dernier. Comme ça vous aurez le panel complet des miracles. Ce n'est pas exactement le dernier parce qu'en fait il y a la guérison des deux aveugles de Jéricho un peu après. Mais c'est quand même, c'est le dernier des grands miracles de Jésus et c'est pratiquement le plus grand. Il s'agit de la résurrection de Lazare. Donc, première étape, on va retrouver ces cinq étapes. Quand Jésus arrive du nord de la Galilée pour revenir vers Jérusalem, puisqu'on lui a appris que Lazare était malade, et il arrive trop tard, et Marthe lui dit, c'est le premier constat, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Elle dit, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour te prévenir, mais tu arrives trop tard. Constat, humblement. Le Seigneur lui dit, Marthe, crois-tu ? Et là, il demande l'acte de foi. Il ne l'a pas demandé à sa mère, d'abord parce que son heure n'était pas venue, il n'avait pas besoin de lui demander. Là, il le demande à Marthe. Je suis la résurrection, la vie, le crois-tu ? Oui, Seigneur, je crois que tu es la résurrection et la vie. Très bel acte de foi de Marthe, alors qu'elle vient de dire qu'elle est vraiment triste d'avoir perdu son frère. Troisième étape, le Seigneur dit « ôtez la pierre ». Là encore, prenez un instant pour vous mettre à la place des Juifs. Lazare est mort depuis 3 jours. On voit d'ailleurs que leur foi dans la résurrection est faible. Marthe dit à Jésus, « Mais vous savez, il est mort depuis 3 jours. » Il sent déjà. Et les Juifs disent, mais de toute façon, à quoi ça va servir d'ouvrir le tombeau ? On n'a jamais ressuscité un mort comme ça. Et pourtant, ils le font. Là encore, ils acceptent cet acte humble d'ouvrir un tombeau qui ne sert strictement à rien pour ressusciter un mort. Et là, Jésus, parce que c'est son ordre, fait véritablement le miracle. Il dit, Lazare sort dehors. Là, on le voit bien. Et immédiatement après, une fois que Lazare est sorti, à nouveau, il donne un ordre, il dit « déliez-le et laissez-le aller ». Donc très généralement, vous voyez un miracle, il y a déjà 3 actions humaines avant, 1 action divine et 1 action humaine, parce que le reste n'est pas du niveau d'un dieu. Dieu se contente de faire ce que seul Dieu peut faire, et il demande que tout le reste soit fait par les hommes, aussi bien avant qu'après. Alors maintenant, intéressons-nous à ce qui est avant, puisque nous voulons ce miracle. Il faut bien comprendre que nous devons d'abord laisser sa part à Dieu et que nous devons viser la quatrième étape, celle de Dieu, et la lui laisser. Mais que cette étape n'arrivera que si nous faisons les trois premières. Alors, les deux premières, nous pouvons les résumer, puisque entre l'acte de foi et la reconnaissance de la situation, d'autres auteurs que moi n'en font qu'une étape, c'est un peu un petit détail, mais il y en a au moins deux, c'est-à-dire un acte de foi et un acte concret, ce que la devise des bénédictins synthétise remarquablement par le « ora et labora ». Et là, je vais vous raconter une anecdote. Un jour où j'étais au monastère du Barou, dans une petite retraite, à la fin de cette retraite, nous avons demandé, je crois que c'était le père abbé Don Gérard, de commenter leur devise, très belle devise de bénédictin, « Ora et labora ». Et Don Gérard dit « Écoutez, je suis bien gêné de vous répondre pour deux raisons. D'abord, cette devise est très courte, donc j'ai très peu à dire dessus. Mais en plus, sur les trois mots, il n'y en a qu'un seul d'important. C'est le « et ». Et quand vous avez compris, vous avez tout compris. Il faut faire les deux, une action spirituelle et une action temporelle. C'est ce que l'on voit dans tous les miracles de Jésus. Une action spirituelle qui est un acte de foi, une prière, et ensuite une action temporelle. Et cette action temporelle, elle est très déroutante, parce que très souvent, ou même systématiquement, apparemment aux yeux des hommes, elle ne sert à rien. Vous pouvez essayer de remplir d'eau des jarres autant que vous voudrez, vous n'arriverez jamais à faire du vin. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Parce qu'il nous demande quelque chose qui est à notre portée avant de faire lui-même ce qui est hors de notre portée. Alors maintenant, appliquons ça à notre cas concret aujourd'hui. Relever notre pays. Donc, la première étape, on vient de le voir, ora. Il faut prier. Vous me direz, on n'arrête pas de nous le demander. Oui, mais avons-nous choisi la prière que Dieu souhaite aujourd'hui? Ah, mais a-t-il manifesté particulièrement une prière qu'il souhaiterait pour nous sortir de la situation? Eh bien oui. Et c'est à Fatima. À Fatima, Dieu, par l'intermédiaire de sa mère, a exprimé une volonté ferme. Et pour retrouver une volonté divine aussi bien marquée, c'est-à-dire que vraiment une parole divine, même si elle est faite, passe par la Sainte Vierge, il faut pratiquement remonter à Sainte Catherine de Sienne, qui est quasiment la seule sainte depuis notre Seigneur, avoir rapporté des paroles directement entendues de Dieu. Et là, en voilà une. C'était le 13 juin 1917. La Sainte Vierge dit au petit voyant, Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, Jésus veut établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. À qui embrassera cette dévotion, je promets le salut. Ces âmes seront chéries de Dieu comme les fleurs placées par moi pour orner son trône. Et apparemment, ce n'est pas suffisant pour nos esprits humains. Il faut qu'elle répète. Et le 13 juillet, elle va répéter. Voilà ce qu'elle dit. Dieu, cette fois-ci, c'est la première personne de la Sainte Trinité. Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé de Marie. Ce sont exactement les mêmes mots. Vous savez, c'est la méthode éducative de la répétition, là. Il n'y a même pas le point à la fin qui change. Tout y est, sauf la première phrase, le premier mot. On passe de la deuxième personne à la première personne. Et ensuite, si on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes se sauveront et l'on aura la paix. N'est-ce pas ce que nous voulons? Sauver d'abord les membres de notre famille, ceux de notre entourage, et surtout avoir la paix dans notre pays et la paix dans le monde. Donc, le Dieu veut établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. Il veut que nous le fassions. En quoi consiste cette dévotion? Bon, je vais sans doute enfoncer des portes ouvertes parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent, mais je vais quand même faire une brève synthèse. On peut voir 5 pratiques. La première, qui est dans quasiment toutes les parties du message de Fatima, ce sont les sacrifices de la vie quotidienne offerts pour la conversion des pécheurs. Ce thème revient 6 fois sur les 9 apparitions de Fatima, les 3 de l'ange en 1916 et les 6 de Notre-Dame en 1917. Ensuite, vous avez la récitation quotidienne du chapelet avec une donnée extraordinaire. La Sainte Vierge dit que cette récitation nous obtiendra la paix dans le monde. Et cette pratique est tellement importante que la Sainte Vierge elle-même la répète 6 fois à chacune des apparitions qu'elle fera en 1917. Ensuite, il y a la consécration au cœur immaculé de Marie qui est demandée formellement pour la Russie, mais qui sera explicitée plus tard par les différents enseignements de Lucie ou tous les grands connaisseurs de Fatima qui disent que cette consécration concerne d'abord notre consécration personnelle et que c'est par les consécrations personnelles que nous obtiendrons la consécration de la Russie. Enfin, vous avez la communion réparatrice des premiers samedis du mois et toute dernière apparition, le 13 octobre 1917, le dernier tableau après les 3 tableaux qu'ont vu les petits voyants des mystères joyeux, douloureux et glorieux, dans le tableau des mystères glorieux, Notre-Dame apparaît sous les traits de Notre-Dame du Mont Carmel en portant un scapulaire. Et Sœur Lucie a toujours dit que c'était parce que la Sainte Vierge voulait que nous portions le scapulaire comme étant un signe d'appartenance et de matérialisant notre consécration à son cœur immaculé de Marie. Voilà donc les 5 pratiques, et les 3 premières, vous constaterez qu'elles concernent toutes l'établissement de la paix dans le monde. La première, les sacrifices pour la conversion des pécheurs, parce que le jour où il n'y aura plus de pécheurs, il n'y aura mathématiquement plus de guerre. La guerre est la conséquence du péché. Supprimez le péché, vous supprimez de facto les guerres. Donc si vous priez pour la conversion des pécheurs, vous allez forcément prier pour la fin des guerres. La fin des guerres signifie la paix, au moins temporelle. Le deuxième, c'est la récitation. Plusieurs fois, la Sainte Vierge a dit que comme cela, nous obtiendrons la paix. Et enfin, la consécration au cœur immaculé de Marie, puisqu'elle a dit que la consécration de la Russie obtiendrait la fin des persécutions des erreurs de la Russie. Voilà. Alors, voilà par exemple ce que dit l'ange, les paroles de l'ange sur ce sujet. Première parole de l'ange en 1916, « N'ayez pas peur, je suis l'ange de la paix. Priez avec moi » et il enseigne une très courte prière. Que pouvons-nous conclure? D'abord, les anges existent. Il y a en plus un ange de la paix. Dieu, au milieu de la Première Guerre mondiale, veut nous apporter la paix. Que fait-il? Il nous rappelle ou nous enseigne qu'il y a un ange de la paix. Ne serait-il pas pertinent de demander à cet ange de la paix de nous aider à obtenir cette paix? Là, il s'agit bien d'une paix temporelle. Parce que pour obtenir la paix au ciel, on y sera forcément, il n'y aura plus de péché. Donc, si nous voulons la paix, la première des choses à faire, c'est ce que nous dit de faire l'ange de la paix, qui nous dit « priez avec moi ». Donc, on voit bien, la première des choses à faire, commencer par prier. Deuxième parole, « de tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. » Je disais qu'à chaque apparition de l'ange, il avait parlé du sacrifice. En voilà un exemple. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il ajoute après. C'était à l'été 1916, lors de sa deuxième apparition. Il ajoute « De cette manière, vous attirerez la paix sur votre patrie ». Ben, c'est bien ce qu'on veut. « Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal ». Donc, nouvelle chose. D'abord, il y a un ange de la paix, mais il y a un ange des nations aussi. Il y a un ange du Portugal. Il y a donc un ange du Canada. Est-ce que vous le priez? Est-ce qu'il a une fête liturgique, cet ange? Si nous ne lui demandons rien, il respectera notre liberté, il ne fera rien. Mais si nous lui demandons, il a sûrement la grâce de nous aider. Voilà donc pour les paroles de l'ange. Maintenant, prenons les paroles de Notre-Dame. Donc je vais brièvement, à Notre-Dame, elle, c'est le chapelet. Réciter le chapelet tous les jours pour obtenir la paix pour la fin du monde et la fin de la guerre. 13 juin, je veux que vous disiez le chapelet tous les jours. 13 juillet, je veux que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire. Pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre. Parce que seule elle, Notre-Dame, peut les obtenir. Seule Notre-Dame pourra nous obtenir la paix. Je veux que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours, le 19 août. Continuez à réciter le chapelet pour obtenir la fin de la guerre le 13 septembre. Et encore le 13 octobre, que l'on continue toujours à dire le chapelet. Donc c'est non seulement la paix, mais aussi la fin de la guerre. Et cet enseignement a été également donné par les petits voyants, et notamment Jacinthe, qui était sans doute des trois petits voyants, celle qui a mieux compris le sens du message de Fatima. Elle est malheureusement morte beaucoup trop tôt pour nous en parler, mais le peu qu'elle a dit avant de mourir en 1921 à l'hôpital de Lisbonne est exceptionnel de densité. Voici par exemple une phrase qu'elle a dit à sa cousine Lucie peu avant de mourir. « Dieu nous accorde ses grâces par le moyen du cœur immaculé de Marie, que c'est à elle qu'il faut les demander, que le cœur de Jésus veut qu'on vénère avec lui le cœur immaculé de Marie, que l'on demande la paix au cœur immaculé de Marie, car c'est à elle que Dieu l'a confié. » Donc si nous voulons la paix, ne nous trompons pas, il faut la demander à qui l'a, à savoir Notre-Dame. Mais il n'y a pas que Jacinthe, tout au long de sa vie, Lucie a parlé de cela, et notamment, voici une lettre, lettre de Sœur Lucie du 19 mars 1939 à son directeur spirituel, le père Aparicio, de la pratique de cette dévotion unie à la consécration au cœur immaculé de Marie, dépendent pour le monde la paix ou la guerre. Encore une fois. C'est pourquoi j'ai tant désiré sa propagation, et puis surtout parce qu'elle est la volonté de notre bon Dieu et de notre si chère Mère du Ciel. C'est la volonté du bon Dieu, Lucie le répète en 1939. Et c'est vrai qu'on le retrouve dans le secret qu'elle a confié le 13 juillet, et c'est le troisième moyen qui va nous donner la paix. Hein, le premier, les sacrifices pour la condamnation des pécheurs, c'est l'enseignement de l'ange. Le deuxième, c'est la récitation du chapelet par la Sainte Vierge. Et le troisième, c'est la consécration de la Russie, là aussi par la Sainte Vierge. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes se sauveront et l'on aura la paix, toujours ce que l'on cherche. Hein. La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu sous le règne de Pie XI, on commencera une autre pire. Pour l'empêcher, c'est-à-dire la guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé de Marie et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Vous voyez, elle demande quand même les deux moyens, même si c'est surtout la consécration. Si l'on écoute mes demandes, mais c'est deux demandes, hein, mais même le chapelet, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. À la fin, mon cœur immaculé triomphera, le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira et il sera accordé au monde un temps de paix. Voilà. Je crois qu'il est difficile d'avoir un langage plus clair. Hein. Et maintenant, voyons quelques précisions apportées par Sœur Lucie. Hein. Le 13 juin 1929, elle a une autre apparition de notre Seigneur et de la Sainte Vierge, où On lui dit, le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire en union avec tous les évêques du monde la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Il promet de la sauver par ce moyen. Donc il confirme que la consécration d'un pays au cœur immaculé de Marie permet de le sauver. Et nous verrons que si la Russie n'a pas été consacrée, d'autres pays l'ont été et ont été effectivement sauvés. Voilà. Donc, les grâces obtenues, hein, citons-en quelques-unes de cette consécration au cœur immaculé de Marie. Premier exemple, parce qu'il ne s'agit pas que d'un pays. Vous avez eu des exemples sur d'autres groupes humains. Le premier à avoir utilisé une consécration, et la première demande faite par le ciel d'une consécration au cœur immaculé de Marie, c'est à une paroisse. Il s'agit de la paroisse de Notre-Dame des Victoires à Paris. Et effectivement, en 1836, après 4 ans de ministère, l'abbé Desgenette, le curé, était absolument désespéré parce que cette paroisse complètement déchristianisée par la Révolution, qui comptait à peu près 40 000 âmes, eh bien, n'avait que 10 à 11 assistants à la messe le dimanche. Et au bout de 4 ans, ce nombre n'avait pas augmenté. Et le premier samedi du mois de décembre 1836, je crois que c'était le 2 ou 3 décembre, il entend une voix qui lui dit « Consacre ta paroisse au cœur immaculé de Marie ». Après la messe, il fait son action de grâce, il entend à nouveau cette voix et il est très troublé. Et il se dit « De toute façon, ça ne peut pas faire de mal, le cœur immaculé de Marie ». Il va demander l'autorisation à son évêque. Et son évêque lui donne l'autorisation de faire effectivement la consécration de sa paroisse le dimanche suivant, 11 décembre. Donc le 11 décembre, il monte en chaire le dimanche et il dit aux 10 paroissiens qui sont là, ils ont été comptés par un assistant, ce soir je ferai un office de consécration de la paroisse au cœur immaculé de Marie, je vous incite à venir. Arrive le soir, l'église est comble, 500 personne dans l'église, l'abbé n'en revient pas, il consacre sa paroisse et il demande, à ce moment-là, c'est une conversion littérale de la paroisse qui, en quelques années, devient la plus pratiquante de Paris. Je passe sur tous les miracles qu'il y a eu également dans cette paroisse après, pour un deuxième exemple qui est la protection des villes. Vous avez dans le nord de la France, juste à côté d'Arromanches, un des grands ports de débarquement, 3 petits villages, Anel, Meuven et Saint-Côme de Fresnay, qui en juin 1944 étaient très inquiets de voir les risques de débarquement. Ils s'en doutaient un peu, ils ne savaient pas trop où, mais ils se sont dit « si jamais ça nous arrive dessus, on va tous y passer ». Et donc les villageois arrivent à convaincre le maire de demander au curé de consacrer les 3 villages, ce qui est fait, je crois, le 2 ou le 3 juin, quelques jours avant le débarquement. La consécration se passe. Il y a juste une personne qui n'a pas confiance et qui s'en va. Et le 6 juin, le débarquement se passe. Pas un villageois n'est touché, alors qu'il y a eu des centaines de soldats passés par là, que l'aviation allemande était là. Ils n'ont pas été touchés. Enfin, pas complètement. Une seule personne est morte, celle qui avait quitté le village 2 jours avant. Autre protection extraordinaire, celle du Portugal. Le Portugal avait décidé, juste après la reconnaissance des apparitions en 1930, le 13 octobre, de consacrer le pays au cœur immaculé de Marie. Ce sera fait le 13 mai 1931. Il y a là, vraiment, de la part des évêques portugais, une vraiment très belle, un très bel acte de confiance en Marie. Très vite après, ils le font. Et puis, 5 ans plus tard, devant l'arrivée du Frente Popular, ils sont très inquiets en se disant « Oh là là, ce qui se passe en Espagne, c'est pas bien. On vient de le subir déjà il y a une 20aine d'années au Portugal. Ça va nous retomber dessus. » Ils font la promesse de reconsacrer une deuxième fois le Portugal au cœur immaculé de Marie, si le Portugal n'est pas inquiété par la Révolution espagnole. Et comme ça c'était le cas, eh bien, le 13 mai 1938, il reconsacre pour la deuxième fois le Portugal au cœur immaculé de Marie. Et le plus extraordinaire, c'est qu'à la suite de cette consécration, Sœur Lucie a dit « Le Portugal sera épargné par la guerre qui va arriver ». Voici trois témoignages de la protection du Portugal de la guerre, pendant la guerre de Deuxième Guerre mondiale, suite à ces trois consécrations. Le premier est du cardinal Cerreira, le patriarche de Lillebonne, le 30 mai 1948, donc juste après la guerre. Il dit « J'ai vu la lettre dans laquelle, 7 mois avant la guerre, cette guerre horrible, horrible, qui couvrit de sang la terre et la mer, et était annoncée comme imminente, mais où il était promis que le Portugal serait épargné par ses horreurs à cause de la consécration que ses évêques en avaient faite au cœur immaculé de Marie. » Deuxième témoignage, encore le cardinal Cerreira, 8 ans plus tard, « Cette grâce de consécration, sans minimiser les efforts de nos gouvernants, qui furent des instruments de la Providence, là encore on note l'action spirituelle, puis l'action temporelle, que dans le monde en flammes, le Portugal a pu rester en paix. » Enfin, troisième témoignage, 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, par le cardinal Ottaviani, cette fois, quand même un personnage important dans l'Église, « J'ai eu en main la lettre du 6 février 1939, où la voyante disait imminente la guerre prédite par Notre-Dame et promettait la protection de Notre-Dame sur le Portugal, grâce à la consécration à son cœur immaculé, faite par l'épiscopat portugais. » Voilà, je ne m'étends pas plus, il y aurait plein d'autres exemples. Hein. Donc, rappelez-vous, hein, que nous demande le ciel pour le parti spirituel, les sacrifices de la vie quotidienne, c'est ce que nous apprend l'ange, la récitation quotidienne du chapelet, c'est ce que nous demande la Sainte Vierge, ainsi que la consécration au cœur immaculé de Marie. Et nous venons de voir par 3 exemples qu'il ne s'agit pas que de la Russie, mais également de nos familles, nos paroisses, nos villages et notre pays. On peut rajouter, puisque associé à la consécration au cœur immaculé de Marie, nous avons vu, il y avait la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Et puis, bien évidemment, le port du scapulaire ne concerne qu'à titre individuel. Il n'est pas directement lié au problème de la paix dans le monde. Encore qu'il puisse nous protéger et donc nous permettre de travailler à cette paix. Voici donc les 2 premières étapes que nous demande le ciel avant de faire un miracle. Mais il y a donc une 3e étape qui est une étape temporelle. Et là, vous me direz, oui, mais à chaque fois, dans le plan temporel, dans tous les miracles, le Seigneur lui-même a donné quelle est l'acte qu'il fallait faire. Comment savoir aujourd'hui sur le plan temporel qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut bien voir que Dieu n'abandonne pas son peuple. Hein, Jésus dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». On est donc sûr qu'il continue à nous parler. Comment nous parle-t-il ? Eh bien, la première réponse est d'abord à Fatima, hein, puisque nous avons vu. L'ange dit « Je suis l'ange de la paix ». C'est la réponse de Dieu. Adressez-vous à l'ange de la paix. Il vous inspirera les moyens temporels. Hein. Et l'ange dit « De cette manière, vous attirez la paix sur votre patrie ». « Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. » Ce moyen, effectivement, il ne le précise pas, le moyen temporel. Ce qui est un peu normal, la prière, c'est le domaine de Dieu. Dieu va être précis. Le domaine temporel, c'est « rendez à César ce qui est à César ». C'est donc à l'homme d'essayer de le déterminer par les lumières qu'il reçoit de la part du ciel. Donc, il faut faire un peu œuvre d'intelligence pour essayer de les voir. Mais la première des choses, déjà, c'est de dire à son ange gardien, à l'ange de la paix, à l'ange du Canada, inspirez-moi, et il faut le demander tous les jours, inspirez-moi ce que je dois faire pour rétablir le royaume du Christ-Roi au Canada. Si nous ne commençons pas ça, l'ange, il aura beau parler, ça ne servira pas à grand-chose. Il faut que nous soyons à son écoute et pour cela, lui demander. Voilà. Donc, première chose, les anges. Et c'est très important, beaucoup plus que l'on ne le pense, parce que, pourquoi ? Dieu a confié le gouvernement des nations aux anges. Voici ce que nous enseigne saint Thomas. La providence du gouvernement divin a voulu que l'homme, aux pensées et aux volontés si changeantes et si fragiles, comme c'est bien nous cela, soit assisté dans sa marche vers le ciel par un des esprits bienheureux à jamais fixés dans le bien. Et dans une autre question, les bons anges peuvent être envoyés par Dieu en ministère auprès des hommes, Dieu se servant de leur action auprès des hommes pour promouvoir le bien de ces derniers ou pour l'exécution de ses conseils à leur endroit. Donc Dieu, dans sa sagesse, a fixé, a donné comme consigne à l'ange de nous aider justement dans ce domaine temporel. Il ne faut pas donc oublier de les invoquer. Mais il a été plus loin. Alors il dit effectivement comment fonctionne l'ange. L'ange ne peut changer la volonté de l'homme en agissant sur elle directement, évidemment. L'ange peut agir sur l'imagination de l'homme et sur d'autres facultés sensibles. Mais il faut y être attentif. L'ange peut illuminer l'intelligence et l'esprit de l'homme, c'est toujours saint Thomas, hein, fortifiant sa vertu et mettant à sa portée la vérité pure que lui-même contemple. Voilà donc comment l'ange agit sur nous. Et il faut vraiment en être conscient pour vivre en permanence dans la journée avec notre ange gardien. Et puis, il y a une autre fonction de l'ange qui est importante. Les anges sont spécialement préposés au gouvernement des collectivités et sociétés humaines, familles, cités, nations, avec mission d'inspirer, de guider, de soutenir les hommes qui assument la charge de régir ces divers groupements humains dont la tâche exige si souvent des lumières et des forces surhumaines. Oh combien c'est vrai. Mais il y a les anges. Résumons, il y a un ange du Portugal, il y a donc un ange du Canada, il y a un ange de la paix, et nous avons notre ange gardien. Demandons-leur des lumières. Et une suggestion, tâchons d'obtenir de nos évêques, on peut toujours rêver, n'est-ce pas? Ça fait du bien de temps en temps. Demandons l'établissement d'une fête de l'ange gardien du Canada. Voilà. Deuxième source d'inspiration après les anges, parce que vous me direz, oui, les anges, je ne les entends pas beaucoup. Bon, c'est vrai, c'est un langage réel, mais difficile parfois à saisir, parce qu'il ne se traduit pas par des paroles humaines. Le deuxième langage, c'est celui des papes. Les papes sont le vicaire du Christ sur la terre, et leur enseignement, pas tous les papes, mais presque, leur enseignement est en général la volonté de Dieu. Et voici ce que dit... Alors, je me contenterai des papes de Grégoire XVI à Pie XII. Je suis désolé, après Pie XII, j'ai beaucoup de mal à trouver quelque chose qui réponde au sujet de ce soir. Vous m'en excuserez, je ne suis pas au Vatican. Voilà ce que dit Saint Pie X dans sa première encyclique qu'il a écrit donc 2 mois après son élection, le 4 octobre 1903. On voit déjà une chose, Saint Pie X réagit très vite, mais quand même après avoir pris un léger temps de réflexion, mais il sait que l'heure est urgente, et voilà ce qu'il dit. Notre but dans l'exercice du suprême pontificat est de tout restaurer dans le Christ. C'est pourquoi si l'on nous demande une devise traduisant le fond de notre âme, nous ne donnerons jamais que celle-ci, restaurer toute chose dans le Christ. Et il précise, deux parties d'ordre capables de rétablir la tranquillité au milieu des perturbations des choses, c'est en 1903, que dirait-il aujourd'hui? Il n'y a qu'un parti, le parti de Dieu. Pas de parti conservateur, pas de parti machin, etc. Le parti de Dieu. Et un peu plus tard, il a très bien précisé ça dans la lettre sur le Sillon pour condamner le Sillon de Marc Sanguier qui voulait justement une nouvelle façon d'établir la société en France. Voilà ce que dit le pape Saint Pie X. Je pense que vous le connaissez, mais il est intéressant de se remémorer ce qu'il a dit. Non, vénérable frère, il faut se le rappeler énergiquement dans ces temps d'anarchie sociale et intellectuelle, c'est bien la nôtre, où chacun se pose en docteur et législateur. On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On ne dirigera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées, elle est, et laïcité, c'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins, contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété, omnia instaurare in Christo. Voilà donc tout l'enseignement du pape, et c'est vraiment l'esprit, nous dit-il, qui doit nous animer. Tout restaurer dans le Christ. Alors vous me direz, c'est un peu général quand même. Bah, je veux bien, mais comment faire? Alors reprenons, et supremi apostolatus, parce qu'après avoir dit donc, qu'il fallait tout restaurer dans le Christ, il donne les moyens. Il donne ce qu'il faut faire. Il dit ceci, il donne quatre actions à faire. Il dit, il faut par tous les moyens et au prix de tous les efforts, 1. Déraciner entièrement cette monstrueuse et détestable iniquité propre au temps où nous vivons et par laquelle l'homme se substitue à Dieu. Hein, c'est vraiment le laïcisme, le relativisme et tout ça. 2. Rétablir dans leur enseigne d'unité les lois très saintes et les conseils de l'Évangile. 3. Proclamer hautement les vérités enseignées par l'Église sur la sainteté du mariage, l'éducation de l'enfance, la possession et l'usage des biens temporels, et sur les devoirs de ceux qui administrent la chose publique. 4 domaines. Enfin, 4e point, rétablir enfin le juste équilibre entre les diverses classes de la société selon les lois et les institutions chrétiennes. Alors résumons un petit peu, parce que c'est un langage un peu précis, donc long. Que demande Saint Pie X ? 4 choses. Combattre l'erreur, en particulier le laïcisme. Proclamer la vérité, en particulier le Christ roi. Et là déjà, on voit qu'on est en totale opposition avec la position de l'Église. Je vous rappelle ce que disait Jean 23. Est-ce que je l'ai là ? Attendez, je vais voir si je l'ai là. Non, je ne l'ai malheureusement pas gardé. C'est pas grave, si je reviens. Jean 23 qui disait, vous vous rappelez, au début du concile, que l'Église n'en était plus à condamner, mais à ouvrir les bras et accueillir tout le monde pour les convertir par la vérité. Eh bien, Saint Pie X lui donne tort une cinquantaine d'années à l'avance. Il dit, il faut d'abord commencer par condamner l'erreur et ensuite seulement établir la vérité. Ensuite, donc, il nous donne 4 domaines, la famille, l'éducation, la propriété privée et les institutions. Et enfin, rétablir la justice sociale. Là encore, il donne malheureusement tort à une grande partie de notre clergé. On met d'abord la valeur chrétienne et les valeurs naturelles avant les valeurs sociales. Voilà l'ordre donné par le dernier pape canonisé. J'entends canoniser par l'ancienne procédure, la seule véritable procédure de canonisation qui vaille, les nouvelles procédures étant quand même très, très douteuses dans certains cas. Voilà donc ce que nous dit un saint pape. Et il n'est pas le seul. Ses successeurs ont fait exactement le même enseignement. Voici par exemple ce que disait Pie XII le 11 juin 1941 pour le 50e anniversaire de Rerum Novarum. De la forme de la société, conforme ou non aux lois divines, dépend et découle le bien ou le mal des âmes. Et là, on retrouve ce que disait M. Dupuy tout à l'heure à partir de l'œuvre de Guillaume Cuchet. Vous avez constaté que la forme de la société dépend le fait que l'homme soit saint ou non. C'est ce que dit Pie XII. Donc, le fait que les hommes, appelés tous à être vivifiés par la grâce du Christ, respire dans les contingences terrestres du cours de la vie l'air sain et vivifiant de la vérité et des vertus morales, ou au contraire le microbe morbide et souvent mortel de l'erreur et de la dépravation. Voilà. Donc, il faut penser au côté temporel et plus particulièrement au côté des institutions. C'est le 4e point de Saint Pie X. Et ce point est si important que Charles Maurras disait « politique d'abord ». Et pourquoi disait-il « politique d'abord » ? Non pas que la politique soit plus importante au plan, je dirais, sur le fond, que la famille ou l'autre, mais c'est simplement que si vous rétablissez la famille, l'école, Pardon ? Voilà. Et la société, un État pourri peut tout détruire. Je vais passer maintenant au dernier point, les institutions. Qu'est-ce que dit Saint Pie X là-dessus ? Hein ? Donc c'est son quatrième point, vous vous rappelez. Il ne sera pas possible de tout restaurer dans le Christ autant que c'est possible si l'esprit du Christ, outre les mœurs de chacun et celles de sa famille, n'a pas pénétré les institutions politiques. Donc vous voyez, il est précis. Bien sûr, c'est le quatrième. Mais on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas dire « parce que j'ai fait les trois premiers, j'ai tout fait ». Non, il faut tout faire. Je sais parfaitement que vous êtes concentré très justement sur le premier, la famille. D'autres le font pour l'école. D'autres le font pour la propriété privée. Mais, nous dit Saint Pie X, ce n'est pas suffisant. Il faut encore travailler le domaine des institutions. Alors, laissez-moi les 5 minutes qui restent pour vous parler un petit peu de ce qui serait possible de faire. C'est un domaine complexe, difficile, j'en conviens. Voilà. D'abord, quelques grands principes. Tout pouvoir vient de Dieu. Deux pouvoirs distincts, l'Église et l'État. Nécessaire union de ces deux pouvoirs et le rôle respectif des deux pouvoirs. Voici, par exemple, ce que dit le pape Saint-Gélas. Donc, c'est, vous voyez, quand même un pape avant Pie XII. Donc, on peut lui faire confiance. Depuis l'avènement de celui qui seul aurait pu se dire à la fois vrai roi et vrai prêtre, il n'appartient plus à aucun empereur de prendre le titre de pontife et aucun pontife de revendiquer la pourpre royale. C'est déjà la séparation de l'Église et l'État bien expliquée. Le Christ, en effet, conscient de la fragilité humaine, a voulu que les autorités chargées de pourvoir au salut des fidèles fussent équilibrées dans une prudente ordonnance. Il a donc distingué les devoirs de chaque puissance. Bien une distinction, mais le pape précise ce qu'il entend. Il leur a assigné à chacun le rôle propre, leur dignité spéciale. Et c'est encore ce que nous disait M. Dupuy tout à l'heure. Pour satisfaire à son vœu, les empereurs chrétiens s'adresseront aux pontifes lorsque la vie éternelle sera en jeu, et les pontifes useront de la protection des empereurs dans le cours de leur vie temporelle. L'Église éclaire l'État, l'État protège l'Église. D'où le rôle important d'avoir des bonnes institutions pour pouvoir protéger l'Église. Hein, Léon XIII disait également, il est donc nécessaire qu'il y ait entre les deux puissances un système de rapport bien ordonné, non sans analogie avec celui qui, dans l'homme, constitue l'union de l'âme et du corps. Alors, très brièvement, comment peut-on voir le problème du rétablissement des institutions ? Complexe. Essentiellement, on peut voir... C'est une question, en fait, de désignation des chefs. On peut voir 4 façons de désigner les chefs. Hein. Le premier, c'est l'hérédité. Le second, c'est la force. Le troisième, c'est la désignation. Et le quatrième, c'est l'élection. Alors, éliminons l'hérédité. Pour l'hérédité, bon, au niveau du chef de l'État ou même d'une commune, on ne voit pas très bien. Vous avez déjà une reine. Avoir un roi en plus, ça va être compliqué. Ça va créer des dissensions. On voit mal. La force, ça a très très bien marché dans la conquête du pays de Canaan, pour Jeanne d'Arc, pour les croisades, pour la colonisation. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement peu nombreux que je nous vois mal attaquer. La désignation, c'est un système qui remarche remarquablement bien. On le voit dans l'armée, dans l'entreprise. Hein, le chef désigne ses subordonnés et c'est remarquable. Malheureusement, au niveau d'un pays, il faudrait donc imaginer que les instances internationales désignent le chef du Canada. Non, merci. Reste l'élection, avec toutes ces combinaisons possibles. Donc, on est bien coincé. Parce que, voici ce que dit Pie IX sur le système électif. Je bénis tous ceux qui y coopèrent, c'était en 1874. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Je bénis tous ceux qui coopèrent à la résurrection de la France. Je les bénis dans le but, laissez-moi vous le dire, de les voir s'occuper d'une œuvre bien difficile, mais bien nécessaire. Celle qui consiste à faire disparaître ou à diminuer la plaie horrible qui inflige la société contemporaine et qu'on appelle le suffrage universel. Remettre la décision des questions les plus graves aux foules nécessairement inintelligentes et passionnées n'est pas se livrer au hasard ou courir volontairement à l'abîme. Oui, le suffrage universel mériterait plutôt le nom de folie universelle. Et quand les sociétés secrètes s'en emparent, ce qui est le cas, comme il arrive trop souvent, c'est le mensonge universel. Pie IX, très grand pape. Vous voyez que les papes nous parlent quand même. Ils nous donnent quel système, si on veut, à l'élection, quel système aller. En effet, ce système est d'abord injuste. Il divise le corps. C'est quand même extraordinaire pour essayer d'unir un pays derrière un chef. On commence par le diviser en morceaux. On commence par créer des systèmes. Et en plus, après l'élection, il y a l'opposition et la majorité. Donc, on navigue sur la division. Divise le corps électoral. Instaure un esprit de candidature épouvantable où tout le monde se croit meilleur que l'autre, alors que ça devrait être l'inverse. Donne l'avantage au mensonge. Oriente, est orientable par l'argent. Donc, on voit souvent que c'est les partis les plus riches qui gagnent. Et le pouvoir vient du peuple, ce qui est bien sûr une erreur. Le pouvoir vient de Dieu. Ceci a été remarquablement résumé par un écrivain français qui s'appelle Ernest Renan, dont je ne recommande pas la lecture de tout le livre, parce que c'est un type épouvantable par bien des côtés. Mais dans un livre remarquable qu'il a écrit, qui s'appelle « La réforme intellectuelle et morale », voilà ce qu'il dit. « Appliquer le choix de la personne du souverain à l'élection encourage le charlatanisme, détruit d'avance le prestige de l'élu, l'oblige à s'humilier devant ceux qui doivent lui obéir. À plus forte raison, ces objections s'appliquent-elles si le suffrage est universel ?» C'est clair. Et c'est pas uniquement pour le souverain. Il va continuer en disant « Appliquer au choix des députés, le suffrage universel n'amènera jamais, tant qu'il sera direct, que des choix médiocres. Il est impossible d'en faire sortir une chambre haute ou une magistrature, ni même un bon conseil départemental ou municipal. » Voilà donc ce qu'il faut penser du suffrage universel. Et donc, ce que nous demandent les papes, c'est d'être très attentifs à essayer de le remplacer par autre chose. Alors, que peut-on imaginer? En fait, on a deux systèmes possibles, qui nous sont la désignation, parce qu'il peut quand même être une façon de faire pour certains étages, et l'élection. De ce côté-là, nous avons l'exemple de, par exemple, le système de l'Église, qui mêle astucieusement les deux. Le pape désigne les cardinaux, qui, à la mort du pape, élisent le pape. C'est un système qui a fait ses preuves, puisqu'il dure il est pratiquement inchangé depuis 1000 ans, et il nous a valu quand même une Église qui a résisté contre vents et marées à bien des turpitudes. Mais on voit qu'aujourd'hui, ce système a des biais, puisque on voit la situation de l'Église aujourd'hui. Il faut donc imaginer un deuxième système, et celui que je vous propose de réfléchir, c'est celui de l'élection du Doge de Venise, alors qui ne s'est pas fait, qui a été assez compliqué comme élaboration, mais qui a ceci d'intéressant, c'est qu'il a introduit un élément supplémentaire qui est le tirage au sort. En gros, c'est le choix de Dieu. Et ils se sont inspirés pour cela, enfin je ne sais pas si les doges ont imaginé à côté de ça, mais on le trouve dans l'Évangile, dans l'élection du remplaçant de Judas, entre Bartholomée et Jude. Et Saint Bartholomée, je crois que c'était son nom, on l'appelait le Saint. Et tout le monde pensait qu'il allait être élu. Et c'est Saint Jude qui a été élu. Voilà. Et ça a été un très grand apôtre aussi. Alors, je passe sur le système très compliqué de l'élection du Doge, mais il faut reconnaître qu'une toute petite république qui n'a pas dépassé 250 000 personnes, a pendant plusieurs siècles dominé toute la Méditerranée et a été un phare culturel extraordinaire. Tout ça simplement parce qu'elle a été capable pendant 6 ou 7 siècles d'avoir un chef correctement élu avec des doges qui étaient parfois exceptionnels. Ainsi, par exemple, vous avez un doge dont j'oublie le nom qui a été élu, il avait 94 ans, il était aveugle et ça a été un plus grand doge de la série des doges. Il ne se serait jamais présenté comme doge s'il était volontaire, mais il a été élu parce qu'il avait été désigné. Et ensuite, le choix du tirage au sort et s'est tombé sur lui. Voilà. Je vais conclure en disant simplement que faire sur le plan temporel. Il faudra évidemment... Il y a plein de choses à dire, d'autres. Et je ne vais pas imposer des règles pratiques parce que chaque pays est un cas particulier. La façon d'établir ce collège d'électeurs pour élire ensuite et tirer au sort le chef et dépend de trop de contingences. Mais, deux principes, il faut éradiquer le suffrage universel et d'autre part, reconstruire les communautés organiques naturelles. Voilà. Je vais conclure directement. Je m'en excuse, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'avais prévu, mais effectivement, le temps tourne. Conclusion, eh bien, c'est encore Pie XII qui nous le dit, hein. Priez, orate fratres, sinon vous ne feriez qu'œuvre humaine, et à l'heure présente en face des forces adverses, l'œuvre purement humaine est vouée à la stérilité, c'est-à-dire à la défaite. Ce sera la faillite de votre vocation. Il faut donc bien commencer par prier, et ensuite, j'espère vous avoir convaincu qu'il ne faut pas s'arrêter là, vous le faites à travers toutes vos actions pour la défense de la vie. Il faut aussi faire des actions pour la défense de l'école, c'est fait aussi, pour la propriété privée et pour l'institution. Voilà, j'espère que ce programme vous aura convaincu et vous aura donné quelque espoir de redresser la situation malgré les tristes constats que nous avons pu faire au début, M. Dupuis et moi.